Aujourd'hui, c'est débrief du All England. Il s'est passé énormément de choses dans le plus vieux tournoi du monde, dans tous les tableaux. La hiérarchie a été chamboulée. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de...
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that.
Salut Benoît, merci d'être là pour cet épisode qui s'annonce, j'ai envie de dire, assez important et assez gros parce qu'il y a pas mal de choses à dire.
Salut Ewan, bonjour à tous. Ouais, j'ai très très hâte de tourner cet épisode et je pense que toi aussi.
Ouais, ça a été... Juste là, avant qu'on commence, ça a été une énorme semaine. Moi, j'avais pas vu personnellement, j'avais pas vu autant de matchs depuis très très longtemps. Donc, il va falloir qu'on se rappelle de tout, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et avant qu'on commence, moi, ce qui m'a le plus marqué, j'en ai un peu parlé dans mon intro, c'est le manque de hiérarchie dans les tableaux. On va rentrer dans le détail évidemment, mais j'ai l'impression que dans les 5 tableaux, en ce moment, ce début de saison, c'est un peu tout le monde peut battre tout le monde et bah c'est assez passionnant quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Après, j'ai encore un peu de mal à l'expliquer parce qu'on le dit depuis le début de la saison, mais on a passé quasi 2 saisons blanches ou pas loin. Du coup, on n'a pas vraiment eu d'idée de la hiérarchie réelle sur tous les tableaux. Donc c'est difficile encore de l'expliquer, mais effectivement, on a un peu cette sensation que tout le monde peut battre tout le monde et que il y a plus de vrais dominateurs sur chaque tableau et en fait tout le monde est à un très très bon niveau, en tout cas pour beaucoup, et du coup voilà, difficile de savoir qui va dominer d'un tournoi sur l'autre en fait.
On va commencer tout de suite avec comme d'habitude l'ordre des finales, donc on va commencer par le simple dames et bon pour le coup cette finale a été assez, on va dire, expéditive. Victoire d'Akane Yamaguchi, la japonaise, contre la coréenne Han Se-young, 21-15. Benoît, quand Akane Yamaguchi est en jambes comme elle l'était cette semaine et surtout sur cette finale, il n'y a pas grand chose à faire pour, j'ai envie de dire, quasiment tout le monde. Et Han Se-young, elle a eu des occasions, on va dire. Elle a essayé de faire tout ce qu'elle a pu, mais ouais, il y avait face à une joueuse de ce niveau-là, il n'y avait pas grand chose à faire et bah, elle a fini par craquer logiquement.
Ouais, pour moi, je vais même aller plus loin et je dirais qu'il n'y a jamais vraiment eu la place pour Han Se-young, en tout cas dans ce match. On sait qu'il y a eu beaucoup de confrontations sur la fin de saison dernière, et notamment la tournée européenne. Maintenant, sur cette rencontre-là, moi, franchement, Han Se-young, je n'ai pas trouvé qu'elle montrait assez, qu'elle était capable de créer. Et limite, par moment, c'est Yamaguchi qui crée le plus. Donc, quand on en arrive là à jouer en jouant contre Yamaguchi, ça paraît quand même très, très compliqué de la battre. Et ouais, manque d'inspiration ou peut-être tout simplement les jambes pour Han Se-young qui lui ont pas permis de faire plus, mais effectivement Yamaguchi pour moi était bien au-dessus. Ouais,
ouais, parce que pour le coup elle, les jambes elle les avait,
ah oui.
Hein, elle était partout avec un temps d'avance, c'était assez impressionnant à voir.
Ouais, c'est clair, ça on va pouvoir enchaîner bientôt avec sa demi, mais c'est pas qu'en finale où c'était impressionnant ce qu'elle a montré quand même.
C'est vrai, bah les deux demi, il y a beaucoup de choses,
ouais,
à dire. On va commencer justement par celle dont tu parlais face à Chen Yufei. Donc Yamaguchi qui a gagné 21-11, 21-13, alors que bon, Yufei elle faisait partie des joueuses en forme. Et au-delà de ça, on va en parler tout de suite, elle n'avait joué qu'un match, elle avait joué à peu près 30 minutes, puisque au premier tour, sa compatriote Zhang Yiman était forfait. Ensuite, elle bat la Danoise Julie Dawa-Jacobsen assez facilement. Derrière, Ebing Zhao, qui était, elle, pour le coup, très en forme, elle venait de gagner en Allemagne, déclare également forfait parce que je crois qu'elle a mal au dos. Benoît, les mauvaises langues diront que ces deux forfaits chinois, un pays qui nous a déjà habitués à ce genre de magouille, arrivent juste après le changement de règle qui dit que maintenant on ne perd plus de points quand on déclare forfait avant ou pendant un match contre un compatriote, puisqu'avant c'était le cas. En fait, c'était une règle qui avait été mise en place pour éviter les magouilles entre compatriotes. Là, ça a été enlevé. Et Chen Yufei qui a eu une petite croisière pour arriver en demi toute fraîche, mais ça n'a pas suffi.
Ouais, écoute, moi avant de venir là, je me suis fait mal au dos, mais bon, je suis quand même venu. Apparemment, les Chinois, eux, ils sont...
Merci à toi, ouais, de pas avoir déclaré forfait pour ce podcast.
Ouais, avec
Benoît.
Plaisir. Je pense que c'est mon manque de culture chinoise peut-être qui m'a fait venir. Bon, j'essaierai de corriger ça à l'avenir. On va pas parler de ça parce que ce serait que... En fait, on n'a pas plus d'infos que ça et personne n'en a. Donc ça sert à rien de dire que la Chine a fait exprès ou pas. De toute façon, le débat n'est pas là. Toujours est-il que je suis pas convaincu que ce manque de temps de jeu dont on parlait quand elle arrive en demi-finale et qu'elle a joué un seul match, qu'elle a qu'elle a quand même plié très rapidement. Je suis pas persuadé que ça l'ait aidé finalement à Chen Yufei. Et Akane Yamaguchi, franchement, elle lui a fait vraiment la misère dans cette demi-finale. Elle l'a contrée dans tous les sens. Chen Yufei manquait de tranchant, certes, dans ses attaques, mais vraiment, Yamaguchi, elle lui a tout fait.
Je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit que ce soit fait exprès ou pas, pour le coup, Chen Yufei, ça a joué en sa défaveur parce qu'elle avait l'air de manquer de rythme face à une Yamaguchi qui, elle, était, bah ouais, qui était à fond dans un très bon tournoi. Elle a enchaîné les bons matchs. Au final, elle a perdu qu'un seul set. Qui c'est qui lui a pris? C'est Saina Newall. Est-ce qu'elle est de retour au top?
Non.
Non, pas du tout. C'est du hasard. Mais ouais, Yamaguchi, elle, pour le coup, était dans le rythme. Et je pense que quand t'as joué que 30 minutes depuis le début de la semaine, c'est dur de tomber face à une Akane Yamaguchi qui est 2 secondes en avant sur chaque volant et qui te met la misère, quoi.
Ouais, mais c'est exactement le fond de ma pensée. C'était, voilà, peu importe la stratégie de la Chine ou pas, c'est que oui, ok, ça fait les points d'une demi-finale pour Chen Yufei, mais je suis pas sûr que ce soit les conditions idéales pour aller jouer une demi face à une joueuse qui adore ramer et face à elle, bah, Chen Yufei, elle était pas capable en fait de tenir le rythme.
Et dans l'autre demi, victoire d'An Se-young donc contre Tai Tsuing, 21-19, 21-13. Benoît, je sais que tu aimes beaucoup Tai Tsuing. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce qu'elle nous avait fait en Allemagne, c'est-à-dire que elle commence très bien son tournoi. Cette fois, elle gagne pas un match, elle en gagne trois. Donc, surtout, on va en reparler après, mais sa victoire très convaincante face à Nozomi Okuhara, où elle lui met 10 et 11. Et là, j'ai trouvé que tu parlais de manque de tranchant pour Chen Yufei, ben moi j'ai eu exactement cette impression pour Tai Tsuing, parce que c'est pas dans son habitude de mener des échanges et de pas arriver à les conclure et d'au final avoir des regrets, et c'est ce qui se passe notamment sur le point de set du premier set, et après dans le deuxième elle a pas été capable de tenir le rythme de la coréenne, mais j'ai été étonné de voir une Tai Tsuing, ouais, qui n'arrive pas à conclure les points.
Bah écoute, je partage totalement ton analyse, et du coup je vais en même temps parler du quart de finale, parce que je trouve que c'est les deux matchs inverses, dans le sens où face à Nozomi Okura, Tai Tsuing a une réussite maximum dans tout ce qu'elle tentait en fait, et face à An Se-young, alors oui effectivement il y a eu un manque de tranchant, mais pour le coup la réussite était maximum du côté d'An Se-young. Ça justifie absolument pas la défaite, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est il y a une telle prise de risque dans certains coups que parfois bah, il y a des fautes qu'elle pourrait éviter en prenant un peu plus de marge, et effectivement ces fautes-là, parce qu'elle prend pas de marge, plus le manque de tranchant dans les attaques, ça face à une joueuse comme An Se-young, ça peut pas passer. Et c'est assez paradoxal quand tu as vu son match en quart de finale face à Okuhara, où c'était total réussite, total régal, quoi.
Bon, après, il faut remettre en perspective le fait que Okuhara avait pas joué depuis, j'ai pas la stat, mais elle avait pas joué depuis très longtemps. Donc déjà, ça fait plaisir de la revoir. Elle a pu prendre un peu de rythme en gagnant deux
Elle
matchs.
était tenante du titre, hein.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais, elle avait pas joué depuis, bah, depuis les Jeux Olympiques,
Ouais,
tout
voilà.
simplement. Donc, ça fait, ouais, ça fait 8 mois, en quoi, à vue de nez. Mais par contre, elle fait deux bons matchs, surtout sur Han Yue, qui est pas une joueuse facile à jouer. Mais par contre, elle a pris un bouillon face à Tai Tsuing. Je pensais pas dire ça, mais qu'elle ait mis 10 et 11, surtout dans le deuxième, c'est limite flatteur, parce que au début du deuxième, elle a pris une raclée comme ça lui arrive peu. Comme ça arrive peu aux grandes joueuses, mais Okuhara, c'est pas la première fois. Hein. Je me souviens de la finale des mondiaux contre Sindhu où elle prend un truc du genre 9 et 9. Des fois, ça, elle s'éteint un peu.
Ouais, c'est ça. C'est quand même. Je sais pas si c'est une question de jambes, mais en fait, tout allait beaucoup trop vite. Et dans ce genre de match où Okuhara est pas capable de rivaliser un peu à l'échange et de tenir la joueuse adverse dans l'échange, elle n'est pas capable de faire autre chose en fait. Et voilà, tu t'as parlé de la finale des mondiaux contre Sindhu. C'est un peu le même match là. C'est que. Le jour où les jambes vont un peu moins bien et qu'elle n'est pas capable de tenir l'échange, ça va trop vite.
Autant la finale des mondiaux, je pense que personne ne l'avait vu
Non.
venir, autant là, bon, le fait qu'elle n'ait pas joué depuis aussi longtemps, je pense qu'on peut lui trouver des excuses, et je pense que quand elle reprendra le rythme, et j'espère qu'elle le reprendra, ça ira mieux. On va parler des Françaises avant de parler, de finir sur le simple dames. Ça va aller assez vite puisque les trois n'ont pas passé le premier tour, et en plus ont joué pour certaines, et surtout pour Léonie Sué, une très bonne joueuse, à savoir Ombangomfan, la Thaïlandaise. Finalement, elle entre ric-rac dans ce tableau, Léonie Sué, grâce à des forfaits, elle perd 9 et 13. Pas grand-chose à en retirer de ce tournoi.
Non, clairement pas. Après, voilà, c'est sûr, on sait qu'il y a une différence de niveau avec des joueuses comme Ombangomfan, donc on s'attendait pas un miracle non plus.
Même topo pour oui. Marie Batomen qui tombe face à la chineuse Onyue qui est top 30 mondiale. Elle est plutôt aux alentours de 60, donc le fait qu'elle perde 21-9, 21-13, c'est dommage, mais bon, c'est prévisible.
Oui, j'ai rien à ajouter, je partage.
Pour Xishu Fei, c'est peut-être un peu plus inquiétant. Elle perd face à Iris Wang, où a priori, il y avait moins d'écart de niveau, puisqu'il y a quoi ? Il y a moins de 10 places d'écart au ranking. Elle prend un set, mais elle perd 21-7 au dernier. Mais le problème avec Xishu Fei, c'est que quand est-ce qu'elle sera au top physiquement ? Elle avait abandonné la semaine dernière. Là, elle joue, mais elle perd. Et surtout, Xishu Fei, elle tient pas souvent la distance des matchs. C'est ça qui est inquiétant, je trouve.
Ouais, maintenant, c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression que Xishu Fei, on verra jamais le niveau auquel on aurait pu l'avoir. Alors déjà, parce qu'elle s'est blessée la semaine dernière, mais aussi son genou, les mois qui ont précédé. Effectivement, elle n'est pas à 100% de ses capacités, ça, il n'y a aucun doute, parce que je pense que des joueuses comme Iris Wang, elle peut faire beaucoup mieux que ce qu'elle a proposé. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y aura toujours de la frustration et des regrets, avec Xishu Fei, et que malheureusement, j'ai l'impression que ça changera plus.
Non, mais on en parlait, toi et moi, et ouais, c'est avec Xishu Fei, moi, c'est plutôt les regrets, oui. Parce que j'ai l'impression qu'on ne l'aura jamais vue à son top niveau, et même quand elle a des tirages abordables, comme là avec Iris Wang, ça passe pas, oui. Donc si ça passe pas là, je vois pas trop quand ça pourra passer, quoi. Transition, et la compatriote d'Iris Wang, Zhang Beiwen, qui elle aussi faisait son retour à la compétition, elle passe pas le premier tour contre Kirsty Gilmour. Mais voilà, je voulais le mentionner parce que ça fait plaisir de la voir de retour à la compétition, elle qui sortait aussi d'une grosse blessure.
Oui, après voilà, c'est des matchs de reprise, tu peux pas en tirer, tu peux en tirer aucune conclusion à mon avis.
Ouais, voilà, elle Okuhara n'avait pas joué depuis les JO où elle s'était blessée contre He Bingjiao en huitième. Donc voilà, plusieurs. Retour, celle qui n'a pas fait son retour, c'est Carolina Marin, je le précise, puisque elle devra attendre le mois d'avril, je pense, avant de pouvoir rejouer. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de simple dames où, comme j'ai dit, on a une hiérarchie qui n'est pas encore très bien définie. Quand on voit Tai Tsuying battre Okuhara, on se dit bon, elle a l'air d'être à son top niveau, elle devrait faire un gros match contre Han Se-young, finalement elle prend pas un set. Han Se-young qui elle-même se fait manger un peu dans tous les secteurs de jeu par Yamaguchi, mais qui n'avait pas été incroyable la semaine dernière, donc c'est un peu compliqué. Côté Yamaguchi, on peut aussi penser qu'elle n'était pas à fond la semaine dernière au German, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs avant Léo Leunglang.
Oui, voilà, je pense que tu as à peu près tout dit. On peut aussi dire un mot de Sindhu qui perd contre Sayaka Takahashi au deuxième tour. Un peu même topo que la semaine dernière. C'est un bon match face à Wang Ziyi et derrière, le match n'est pas mauvais face à Takahashi, mais franchement, on attend mieux de Sindhu et ça peine à revenir et c'est vraiment long là.
Voilà, et je précise que Intanon n'était pas dans le tableau, puisqu'elle a été testée positive la semaine dernière au German Open, et même si maintenant elle est négative, elle n'a pas pu venir à temps pour jouer le match. On va tout de suite passer au double homme.
I'm the bad guy.
Take that!
Au double homme, seul tableau où c'est une paire non tête de série qui a gagné cette année, puisque ce sont les Indonésiens Fikri Maulana, qui sont toujours pour l'instant 28e mondiaux. Ils ont 22 et 23 ans, je crois, Benoît. Et ils battent leur compatriote Hassan Setiawan, que vous connaissez sûrement très bien. 21-19, 21-13. Qu'est-ce que tu penses de ce match ? Toi et moi, Benoît, on tenait clairement avec les anciens, sans manquer de respect avec Fikri Maulana, mais moi j'étais très déçu de voir Hassan Setiawan perdre, et pourtant c'est une défaite assez logique quand tu vois le match.
Alors c'est une défaite assez logique, sincèrement, c'est rare de voir Hassan Setiawan mener, parce que dans le premier set il mène, et lâcher le set en fait. Enfin lâcher, c'est peut-être pas le mot, mais le perdre en tout cas. Moi j'ai quand même eu l'impression que Fikri Maulana il jouait très bien le coup, parce qu'ils ont compris qu'il fallait absolument mettre un rythme de malade, et ça a fonctionné, et c'est évident que face à Hassan Setiawan ça peut fonctionner, ça fonctionne pas toujours parce que tout le monde n'a pas le talent pour le réussir. Maintenant, évidemment, comme toi, Hassan Setiawan, forcément on avait envie de les voir gagner peut-être un dernier All England, mais franchement, il n'y a pas photo sur cette finale.
Ouais, moi j'ai en tête ce match de Setiawan raté, un match de largement dans ses cordes, alors qu'ils mènent 19-18, parce que ils sont menés quasiment pendant tout le premier set, ils reviennent sur la fin, et là je me dis, ouais, ils sont vraiment trop forts dans la gestion des matchs, ils vont prendre le premier, et après ce sera dur de les reprendre quand ils auront gagné le premier, et finalement ils ratent ce match, ils ratent un peu leur fin de set, qui perdent finalement 21-19, et là j'avais vraiment beaucoup de mal à les voir... revenir, et pourtant ils font un très bon début de deuxième set, ils mènent un truc du genre 8-3, et finalement ils sont menés 11-8 à la pause, ils ont eu un trou d'air assez incompréhensible, qui peut peut-être s'expliquer par le fait que Hassan s'était un peu blessé la veille, mais j'ai du mal à interpréter le résultat comme ça, je trouve que ouais, ils avaient peut-être moins de jus, et je trouve que pour leur jeune âge, et alors qu'ils font leur première participation au All England, Fikri Molana ont montré beaucoup de maturité, et ça c'est évidemment à mettre à leur crédit.
Ouais clairement, et en fait je me posais une question quand je regardais un peu leurs résultats, parce que faut dire ce qui est, c'est que j'ai dû les voir jouer deux fois peut-être avant le All England, c'est que je me posais la question de savoir si l'Indonésie avait vraiment misé sur eux à un moment donné sur les dernières années, parce que pas de médaille sur des championnats du monde junior. Alors on sait que le développement passe beaucoup par le championnat local, enfin le championnat national, pas local pardon, en Indonésie, mais finalement pas très présent avant 22 et 23 ans, tu vois, alors que des Carnando Martin, on commence à les voir alors qu'ils avaient moins de 20 ans. Et Fikri Molana, je suis pas remonté jusqu'aux années 1900, mais au 21e siècle, je peux vous dire qu'aucune paire de vainqueurs du All England n'était aussi mal classée et même n'était hors du top 15 mondial. Donc là, enfin, faut dire ce qui est, gagner le All England en étant 28e au ranking mondial et 4 ou 5e paire de ton pays, c'est exceptionnel.
Alors, parlons Indonésie, parce que là, en double homme, c'est une dictature qu'ils sont en train d'instaurer. Il y avait 3 paires sur 4 indonésiennes en demi-finale. Il y avait également dans le tableau Carnando Martin, dont on parle beaucoup et qui progresse, qui, eux, du coup, auraient pu être aux portes des demi, ils ont perdu en quart. On a Kusamawardana Rambitan, une autre jeune paire qui a perdu au premier tour face à Fikri Molana, donc les futurs vainqueurs. Parce que oui, en fait, c'est ça. Au premier tour, on avait deux affrontements entre Indonésiens. S'il n'y avait pas eu ça, tu peux t'imaginer que ce soit ceux que je viens de citer ou Alfian Ardianto qui ont également perdu au premier tour, ils auraient pu aller loin. Donc c'est vraiment le pays du double homme. Et c'est des paires où, quand tu vois des paires de ce pays, d'une, elles sont fortes. Et quand tu les vois jouer, tu sais qu'il va se passer quelque chose, quoi.
Ouais, c'est clair. Tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'il y a deux affrontements entre Indonésiens au premier tour. Mais tu peux avoir six paires, peut-être 7 paires en quart de finale. Enfin, c'est quand même hallucinant de pouvoir dire ça. Et puis, on parle de bah là, j'ai pas les rankings, tous les rankings sous les yeux, mais on parle peut-être de 8 paires qui sont dans le top 30 mondial ou quasi, tu vois. C'est hallucinant.
C'est, ouais, hallucinant. Parlons de... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Hassan Setiawan? Moi, j'ai trouvé assez ouf leur match contre... j'ai pas vu celui contre Ethan, j'ai vu celui contre Astrup Rasmussen en quart. J'ai trouvé assez ouf comment ils arrivent à gérer le match, et j'espère qu'on les reverra, mais le fait qu'à leur âge, c'est-à-dire à plus de 35 ans tous les deux, ils sont en finale du All England, ils sont très malins parce qu'ils sont lents. T'as l'impression que Setiawan, quand il défend, il bouge pas, mais c'est encore très très fort et ils nous ont régalé cette semaine.
Ouais, bien sûr, techniquement, je pense que c'est ce qui se fait de mieux sur le circuit. Et t'as raison de parler de ce match contre Astrup Rasmussen, c'est peut-être leur meilleur match de la semaine, dans le sens où eux ont parfaitement géré, et Astrup Rasmussen, clairement, pour dire les choses comme je le pense, ils se sont un peu fait dessus, à mon avis, quand il fallait pas.
Astrup Rasmussen, t'es sûr? C'est possible, ça, qu'il craque mentalement. Spécialité mais attends,
maison,
Benoît, ça ne leur est jamais arrivé avant. Ils sont super solides. Bah non, évidemment, ils nous font toujours la même. Pourtant, ils partaient vraiment sur des très bonnes bases. Ils ont été bons la semaine. Ils ont été bons la semaine dernière. Là, ils partaient sur un bon tournoi. Pendant un moment, j'avoue, j'ai eu un instant de faiblesse. Je me suis dit, attends, ils vont pas nous le gagner ce tournoi. Et non, j'ai été rassuré parce que ils lâchent un set. Après, dans le deuxième, ils sont devant. Tu te dis, bon, ok, ils vont peut-être battre Hassan Setiawan. Et évidemment, qu'ils gagnent pas. C'est dommage, hein, parce que ils étaient en forme.
Je pense, voilà, c'est ça. Ils font pas un mauvais match. Ils font même un bon match, mais juste cette gestion et puis. Cette gestion de match, c'est quand même à leur âge, parce que c'est vrai que toi tu me disais, tu m'envoyais un message la semaine en me disant qu'il m'astrupe à 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, et j'ai l'impression qu'il a le mental d'un gosse de 20 ans en fait, et c'est juste pas possible, parce qu'on sait qu'ils ont le talent, on n'a jamais remis ça en question, mais là voilà, c'est trop dommageable dans ce genre de match.
On parlait de paires indonésiennes depuis tout à l'heure, et on n'a pas encore mentionné les noms de nos numéro 1 mondiaux, Gideon Sukamulyo. Qu'est-ce que tu penses de leur tournoi? Alors, perdent en demi, ils font ce que je dois dire est quand même un super match en quart contre Ranky Radicetti, une autre paire en forme du moment. Et ils perdent face au futur vainqueur 21-16 au troisième. Comment tu vois leur tournoi en grand quand tu prends un peu de hauteur? Qu'est-ce que tu en penses de ce tournoi des Minions?
Je me pose beaucoup de questions. Là, je me demande si... s'ils ont toujours envie de jouer ensemble, parce que franchement déjà, faut dire les choses, c'est pas la paire le problème, mais sur ce qu'on a vu, c'est Sukamulio le problème. Enfin, je sais pas.
Ce que j'allais dire. Tu me demandes s'ils ont envie de jouer ensemble. Moi même Sukamulio, je le prends pas en partenaire
mais
en ce moment.
Mais franchement, sincèrement, hein, ils se déplacent pas, ils bougent pas, et à côté de ça, t'as Gideon qui fait tout le taf. J'ai du mal à expliquer ce qui se passe parce que autant ils étaient mauvais ensemble il y a quelques mois, on l'avait dit. Bon après, ça va quand même en demi des tournois, tu vois, mais. Mais cette paire-là, en England comme ça, je suis désolé, mais on sait le niveau qu'ils ont eu et ils doivent gagner en England de ce niveau-là parce qu'on a parlé de la finale, mais je reste persuadé que les Minions sont 10 fois au-dessus des deux paires qu'il y avait en finale en temps normal, tu vois. Et bon, voilà, moi, c'est mon avis, c'est que Sukamulio a pas envie d'être là et à côté de ça, t'as un Gideon que j'ai trouvé exemplaire toute la semaine.
Ben moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le Sukamulio, il a pas envie d'être là et c'est justement ça qui m'inquiète. C'est que je trouve que sur le body language, il y avait pas grand-chose à redire. Alors, il a toujours été comme ça, oui, Sukamulio. Hein. C'est pas le mec... Mais là, j'ai trouvé qu'il était investi et qu'il tentait des choses. Sauf qu'il avait un manque de tranchant qui était terrible. Et alors, je me dis... Avant, je me disais, bon, il a pas envie de jouer, mais en fait, il est quand même trop fort. Mais là, j'ai l'impression qu'il y arrive pas, tu vois. J'ai l'impression qu'il est frustré et qu'il fait aucune différence. Et c'est fou que... Un mec comme lui, qui était le joueur clutch par excellence, qui le gars savait te terminer un point tout seul, là, il ne sait plus rien faire. Et tu l'as dit, c'est Gideon qui doit bosser pour les deux. Et ça m'inquiète parce que je me demande comment il a perdu son niveau. Je ne sais pas si c'est un problème physique ou mental, mais ouais, il n'y arrive pas. Il fait plus de différence et surtout, il fait des fautes, quoi. C'est assez, ouais, assez terrible ce qui lui arrive à ce joueur quand même.
Ouais, on a l'impression que c'est un cauchemar un peu parce que franchement, bon, j'adore Gideon et je pense que toi et moi, on l'a vu avant de qui jouait avec Sukamulio, mais quand on a commencé à connaître Sukamulio, on s'est rendu compte que le plus talentueux des deux, c'était probablement lui. Et là, c'est vrai que cette passe, cette mauvaise passe, j'ai du mal à l'expliquer. L'envie ou pas, qu'on soit d'accord ou non, c'est même pas le problème, en fait. Peu importe la raison, mais c'est vrai que ça devient quand même problématique pour la paire et... J'espère sincèrement que ça va se corriger parce que c'est vrai que c'est aussi le début de la saison pour eux. Enfin, on peut excuser les autres et eux aussi, mais ouais, j'espère que ça va changer quand même.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils n'étaient pas en Allemagne pour le coup, donc ouais. C'était la première fois qu'on les voyait cette saison. À voir s'ils vont continuer de jouer à deux. Mais bon, déjà, les autres paires indonésiennes tournent plutôt bien, peut-être sauf Alfian Ardianto, mais. Sukamulio, vu comment je l'ai vu là, c'est pas en le mettant avec quelqu'un d'autre que ça va aller mieux. Hein. Donc, oui. Ouais, on verra pour la suite. Avant qu'on passe aux paires françaises, peut-être un mot de Oki Kobayashi, qui eux ont perdu face au futur vainqueur Fikri Molana. Alors, eux, pour le coup, si je devais décrire leur tournoi, c'est à l'arrache. Mmh. Ils passent contre les Malaisiens Chong Ti 23-21 au premier tour, ensuite contre Lane Vendy, dont on reparlera peut-être, 24-22 au deuxième tour, et finalement, c'est passé deux fois, mais pas trois, vu qu'ils perdent finalement 22-20 au troisième contre donc Fikri Molana. Tout le match, enfin tout le tournoi, même s'ils ont gagné leurs deux premiers matchs, on n'a pas senti les Oki Kobayashi champions du monde, hein, on va être très... Oui. Très honnête, c'est une paire qui a quand même du mental et qui arrive à s'en sortir là-dessus. Typiquement contre Lane Vendy, on a vu le match à deux, ils haussent leur niveau en fin de match, mais contre Fikri Molana, ils ont essayé, mais en face, il y avait une paire plus solide et c'est pas passé, quoi.
Oui, je pense que tu résumes bien le truc, c'est que ils sont quand même solides dans la tête, les garçons, parce que ils auraient pu sortir au premier tour, ils auraient pu sortir au deuxième, et finalement, c'est peut-être la fin de match qu'ils ont le plus maîtrisée. Bah, celle contre Fikri Molana où ils sont un peu devant pour le coup, c'est celle qui perdent. Alors effectivement, ils sont quand même loin à mon avis de leur niveau de champion du monde. Maintenant, c'est pareil, ce niveau global en double homme, j'ai l'impression que ça touche pas que Oki Kobayashi là. Je sais pas si c'est une période post-JO, post-mondiaux, mais j'ai l'impression que ça touche un peu tout le monde. Voilà, ils font quand même un quart de finale, c'est vrai que c'est à l'arrache, mais voilà, moi je suis moins inquiet pour Oki Kobayashi que pour les Minions, et effectivement, bon voilà, c'est un quart de finale sur All England, c'est pas terrible, mais je suis Je suis pas inquiet plus que ça, moi.
On parlait, on a parlé d'abord de une paire où il y en a un qui fait tout le travail avec les Minions et une paire qui a pas de mental. Et ben avec l'NVD, on a le mélange des deux parce que Ben Lane, il doit bien en avoir marre d'avoir un gars qui craque dès que c'est un peu serré. Sean Vendy qui a été catastrophique en fin de match et il peut vraiment s'en vouloir pour le coup. J'aime pas tirer sur un joueur, mais là la différence entre les deux a été assez. Assez flagrante quand
ouais,
même.
Ouais, si, t'aimes quand même bien tirer sur quelques joueurs, mais on donnera pas de nom, de toute façon. Donc, ouais, je partage, de toute façon, on a vu le match en même temps, on a vu le match ensemble, donc c'est difficile de te contredire. Sean Vendy, longtemps, hein, moi j'étais persuadé que c'était le meilleur joueur de la paire, mais je suis plus du tout convaincu de ça. Pas seulement sur le All England, on le voit aussi en top 12, on l'a vu la semaine dernière, on le voit ces derniers mois en fait. Moi je trouve Ben Lane. Plutôt fort maintenant, c'est l'ensemble de la paire. Peut-être qu'on les a, on les a, on en a demandé trop et on se demande s'ils n'ont pas déjà atteint leur plafond finalement. Mais c'est vrai que je suis pas persuadé que Sean Vendy aide beaucoup à casser ce plafond qui finalement les empêche de gagner ce genre de match.
Heureusement que au premier tour ils ont affronté une paire encore plus catastrophique. Bon, eux on va pas en parler parce que si on parle d'eux on aura beaucoup de temps, mais la fédération malaisienne doit bien se rendre compte que Tan Tan ça ne marche pas. Les paires françaises, Corvée Labarre qui avait un premier tour difficile hein, contre Gideon Scamugno, ils les avaient déjà joués il y a pas longtemps. Ce que j'ai trouvé le fait marquant de ce match, Benoît, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est qu'ils ont dû arrêter le match et faire une pause parce qu'il y avait une fuite d'eau sur un terrain. Et ça, moi qui trouve ça déjà fou que ça arrive dans les clubs où moi je joue, que ça arrive au All England, ça m'a vraiment fait marrer.
C'est dire à quel point t'as bien kiffé le match. Oui, effectivement, j'avais retenu l'anecdote, mais Corvée Labarre, bon, on sait que c'est pas, de toute façon, c'est pas une paire. Enfin, je veux dire, c'est l'opposé de ce que eux proposent dans le jeu. Donc c'est compliqué, mais moi, je sens quand même qu'il y a toujours un truc avec eux et je les trouve intéressants. Ouais.
Mais moi, le fait que, bon, ils perdent 12 et 18, c'est pas non plus ultra glorieux, mais le fait qu'ils arrivent à ne pas prendre des tôles et à rivaliser parfois, je me souviens qu'ils avaient fait des bons matchs contre un bon match, c'était aux IFB ouais. D'ailleurs, je crois, contre Jomko Kedren, ouais. Je crois, ou je sais plus si c'était aux IFB, mais bref, contre des mecs qui font la moitié de leur taille et qui jouent beaucoup plus vite, je trouve ça quand même assez impressionnant. Bon, là, ça passe pas, mais on parle d'un numéro 1 mondial en face quand même, mais ouais, non, mais je trouve que c'est pas mal. Hein. Là, je disais ça en rigolant parce que la fuite m'a fait marrer, mais leur match est pas ridicule. Pour les Popov, ça a été plus compliqué par contre, juste en dessous dans le tableau, défaite au premier tour contre Koga Saito, 21-8, 21-14, avec les frères Popov c'est toujours pareil, quand tu prends des paires asiatiques du top 10-15, tu vois à quel point ils ont du retard en double.
Oui voilà, je te rejoins totalement, effectivement on l'a déjà dit, mais c'est là qu'on voit leurs limites. En plus de, je pense, le côté psychologique, on en reparlera, mais les déboires de fosse n'ont pas dû aider les Popov sur ce All England.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être mentionner que comme en mixte, là la Chine mettait ses ouais. anciennes paires, on va dire. Enfin, je parle surtout de Ethan qui jouait encore ensemble, mais qui ont fait demi et qui ne joueront plus ensemble après. Là, c'était juste pour garder les points qui étaient déjà faits. Donc finalement, c'est eux qui ont été la meilleure paire chinoise puisque la paire des recherches de partenaires Liu Zhu a passé un tour, mais perd contre Carnando Martin. Et la paire des vieux, Liu Zhang, a aussi perdu un tour et a perdu contre des encore plus vieux, Hassan Setiawan.
Ouais, je voulais juste dire deux choses. On a oublié DLRUVDG, mais on les a pas vraiment oubliés. Ils ont rejoué Matsui Takeuchi qu'ils avaient joué au Mondiaux et contre qui c'était passé pas loin. Là, pour le coup, il n'y a pas eu photo, donc je sais pas si tu veux en dire un mot.
Non, c'est vrai. Oui, je suis désolé, j'ai oublié la troisième paire française. Non, j'ai totalement un peu ce que tu as dit. C'est qu'ils étaient passés pas loin la dernière fois. Et là, le premier set allait un peu dans ce...
Ouais.
Dans ce chemin-là, mais le problème, c'est que quand j'ai vu qu'ils gagnaient pas ce premier set, j'avais vraiment du mal à voir comment ils pouvaient faire mieux. Je pense qu'il fallait vraiment gagner ce premier set pour espérer mieux, quoi. Quand tu perds le premier face à une paire comme ça, c'est compliqué. Et pourtant, une paire japonaise qui s'est effondrée au tour d'après contre Astrup Rasmussen. J'ai rarement vu ça. Le match, il a été très très rapide.
Clairement. Et du coup, un petit mot de Zhang Nan. On en avait parlé la semaine dernière. On était aussi inquiets quand on a parlé de l'épisode de la Chine des paires, et on savait à quel point ça s'était pas forcément bien fini entre eux. Je donne pas cher de la peau de cette paire, clairement, je te le dis, parce que j'ai vu le match contre Hassan Setiawan. Zhang Nan n'a pas envie de jouer au bad. Zhang Nan n'a pas envie de jouer au bad avec Liu Cheng, je sais pas, mais n'a pas envie d'être là, ça c'est sûr. Et je pense que nos inquiétudes concernant cette paire, j'ai quand même l'impression qu'elles se révèlent plutôt vraies. Et c'est pas de bon augure pour la Chine.
Non, c'est vrai que je suis d'accord que au-delà de leur niveau, parce que bon, ils rejouent ensemble depuis pas longtemps, mais le body language de Zhang Na n'est pas, ouais, pas ultra positif. Allez, on passe tout de suite au double dame.
Aimez-vous le badminton ?
Ah non !
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Double dame qui a été rapidement terminé. 41 minutes pour une finale de double dame, c'est quand même assez rapide. 21-13, 21-9, la victoire des japonaises Matsuyama Shida contre les chinoises, les jeunes chinoises Zhang Zheng. Les chinoises qui vont devoir apprendre à mieux défendre, parce que je trouve, ouais, que pour du double dame, c'est un peu léger. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh ben, j'en pense que tu m'as devancé, parce que Zhang Shushan, qui est la partenaire de maintenant de mixte de Zheng Ziwei, je t'avais dit, je sais que je te l'ai dit, qu'en double dame, je la trouvais plutôt intéressante, mais en mixte, incapable pour l'instant de rivaliser avec les meilleurs. Ben, ça rejoint mon argument, c'est ça, c'est que c'est une paire qui est capable d'attaquer mais incapable de défendre face à des joueuses aussi intelligentes que les Matsuyama Shida ou même en général les doubles dames japonais. C'est impossible tout simplement de gagner un match en jouant comme ça, c'est juste impossible. Et voilà, je pense qu'il va falloir qu'elles apprennent à varier déjà en attaque et en plus à défendre.
Il y a eu pas mal de surprises, mine de rien, dans le double dame, alors que le double dame est quand même d'ordinaire un tableau où la hiérarchie est assez bien respectée. Là, il y a eu pas mal de surprises, dont la défaite dès le premier tour des têtes de série 1, Chen Jia. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il y en a une des deux qui était malade, je crois, et qu'elles n'étaient pas totalement remises de leur victoire en Allemagne. Quelques jours avant, elles perdent face aux coréennes Jeong Kim, qui ont, elles, pas fait le pire des tournois, hein, puisqu'elles vont jusqu'en demi. On a Lee Shin, les coréennes, qui perdent en quart. Alors celui-là, si j'avais pas bien pas vu venir une défaite, c'est bien celle-là, contre les indiennes Jolie Pulela. Je continue après, tu me diras ce que t'en penses. On a Fukushima Hirota qui revenait à la compétition, bon, qui avait un premier tour très difficile et qu'elle perde finalement face au futur finaliste Zhang Zheng. Et enfin, on a Kim Kong qui, elles, font pas non plus un début de saison fantastique, puisqu'elles perdent 21-10, 21-18 contre Matsuyama Shida dès l'écart. Voilà, du double dame qui nous habitue pas à ça d'habitude.
Non, qui nous habitue pas à ça. Maintenant, voilà, faut quand même souligner la masterclass de Matsuyama Shida cette semaine, qui bat Kim Kong, qui bat les Jeong Kim, pardon, et qui bat Zhang Zheng en finale. Enfin, je veux dire, leur semaine globalement est très très solide. C'est pas forcément elle qu'on attendait, effectivement, t'as raison de le signaler. Maintenant, voilà, le Japon est triple tenant du titre en double dame au All England avec trois paires différentes. Et ça montre aussi cette capacité à avoir des paires capables de gagner, même là où on les attend pas. Et ben voilà, quand la hiérarchie est bousculée, ben finalement, est-ce que c'est pas encore une paire japonaise qui va au bout, tu vois? Ben, on peut se poser la question.
On parlait de l'Indonésie en double homme, on a un peu en ce moment la même chose, ouais, avec le Japon en double dame. Là, ça s'est moins vu parce que Fukushima Hirota faisait leur retour et Matsumoto Nagara ne sont, elles, pas encore revenues. Donc finalement, dans le tableau, il y avait, je crois, seulement trois paires japonaises, du coup, ouais, ce qui est assez surprenant parce que d'habitude, elles ont la quantité et la qualité. Là, il n'y avait pas la quantité, mais la qualité avec Matsuyama Shida est définitivement au rendez-vous et elle confirme qu'après leur très bonne année 2021, elles ont vraiment passé un palier.
Ouais, c'est ça, même si on les considère, enfin moi en tout cas je les considère toujours un cran en dessous de tout ce qu'on a vu, même tu vois des Matsumoto Takahashi qui ont pris leur retraite, je les considère toujours un cran en dessous et pourtant ça va quand même gagner en All England et ça personne ne leur enlèvera.
La seule paire française du tableau, Margot Lambert et Anne Tran, a encore perdu dès le premier tour face aux chinoises Liu Chia, 21-14, 21-18. Qu'est-ce que tu veux en dire pour être honnête? Très honnête, j'ai pas vu ce match, et quand il y a 60 places d'écart au ranking, même si je pense que Lambert et Tran sont un peu meilleurs que ça, c'est compliqué.
Non, je l'ai pas vu non plus. Maintenant, c'est quand même une paire chinoise qui commence à arriver sur le circuit. On sait qu'il y a des écarts de niveau évidents et malheureusement, bah, tu prends peut-être une des pires paires dès le premier tour, quoi.
L'Estoeva, elle confirme après leur finale, ouais, la semaine dernière, là, elle perd dès le premier tour face à Lee Shin, mais elle confirme qu'elles sont revenues à un niveau très intéressant. Elle gagne le premier 21-16 et ensuite elle perd 23-21, 23-21, une défaite très très cruelle, mais qui, je pense, sera encourageante pour elle.
Oui, c'est ça, on en avait parlé par message en disant, ouais, ok, elle perd au premier tour, mais elle perd au premier tour contre une des meilleures pertes de ce tableau, donc pas hyper inquiet et même plutôt content de voir qu'elles sont capables d'enchaîner.
La nouvelle un peu triste, c'est Pauli Rahayu qui doivent abandonner après une blessure de Rahayu pendant leur deuxième tour. Donc les indonésiennes championnes olympiques qui ne joueront plus ensemble maintenant puisque Apriyani Rahayu a une autre partenaire, que ça se finisse sur une blessure contre une paire qui a été repêchée, c'est un peu, bah, un peu dommage quoi.
Ouais, c'est un peu triste, ça aurait mérité de pas se finir comme ça. Après voilà, c'est surtout dur pour Pauli, pour Grecia Pauli, parce qu'on, enfin, j'imagine qu'en interne ils savent ce qui va se passer, mais nous on sait pas trop si elle va continuer ou pas, et c'est plutôt ça qui est triste, de terminer sur une blessure.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau, Benoît?
Écoute, non, pour moi on a pas mal parlé du double dame, donc c'est bon pour moi.
On va tout de suite passer au double mixte. Look at this, look at that. Double mixte où le Japon se sera encore, aura encore brillé. Finalement, 3 victoires sur 5 pour le Japon cette année. Le Japon qui aime bien le All England hein, dans les années récentes. Victoire de Watanabe Higashino face au chinois champion olympique Wang Huang, 21-19, 21-19. Et Benoît, autant on va pas se le cacher, dans tous les autres tableaux, j'ai été déçu par la finale. Mais celle-là, même si ça fait, entre guillemets, que 2-7, limite ça rattrape tout le reste parce que le niveau était incroyable.
Ah mais clairement, cette finale, elle nous a tout fait oublier. Enfin, je veux dire, c'était un kiff. Je crois que je t'ai même dit que c'était un des meilleurs matchs que j'avais vu ces dernières années. Je le pense toujours, c'était pas à chaud. Sincèrement, on a passé un super moment. Les deux paires étaient fortes, en fait. Même si les Japonais le gagnent 19 et 19, ça aurait pu aller au troisième. On a vu un super match des deux paires, et voilà, ça confirme que Yuta Watanabe, quand même, il kiffe bien la salle du All England parce que c'est son cinquième All England et qu'ils sont maintenant double tenant du titre avec Arisa Higashino.
Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de stats. Tu l'as dit, 5 titres pour Watanabe, 3 en mix, 2 en double homme, puisque en double homme, il était, je crois, double tenant du titre, même si il l'a pas défendu cette année. Du coup, 3 titres en mixte, 4 finales sur les 5 dernières éditions. Pour Watanabe Higashino, donc des stats assez folles. Tant qu'on est sur Yuta Watanabe, tiens, que j'ai trouvé encore très très bon, vu sa forme physique, je trouve c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et quand tu vois la comparaison avec la fin d'année dernière, bon, où tout le monde était un peu fatigué, moi je me dis que si le prix pour le voir à ce niveau là c'est qu'il joue plus en double homme, je pense que le Japon a pris la bonne décision.
Je partage totalement, et sur Twitter, les fans coréens japonais pardon, s'emballaient et le surnommaient Flying Yuta. Donc effectivement, moi aussi je suis prêt à plus le voir en double homme si c'est pour le voir comme ça en mixte.
Et pour revenir sur le match, ils avaient quand même des confrontations, enfin des face-à-face très négatifs hein, contre Wang Huang. Et là, j'ai bien aimé leur attitude, même quand ils sont derrière dans le deuxième, ils ont pas lâché. On voyait qu'ils avaient les crocs et ils les ont eu un peu à l'usure. On a notamment vu Wang Liu fatigué en fin de match, et je pense que c'est surtout côté physique que ça a pêché pour les Chinois.
Ouais, je partage totalement. Après, on a un peu deux paires opposées, c'était Wang Liu, sans lui faire offense. Parfois, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de finesse, voire d'intelligence dans ses choix. Et de l'autre côté, t'as un Yuta Watanabe et même Higashino qui sont capables de faire tellement de choses avec leur raquette qu'ils ont fini par l'emporter. Mais c'est vrai que souvent, la puissance de Wang Wang a posé des problèmes. Et d'ailleurs, il suffit de voir les confrontations directes.
Watanabe et Higashino, qui après avoir été décevant la semaine dernière, n'ont pas perdu un set cette semaine. Et moi, c'est notamment leur demi qui m'a impressionné, puisqu'ils jouent face à Poavaronukro Teratanachai, les champions du monde qui n'avaient pas perdu depuis plus de 30 matchs et qui étaient invaincus depuis les IFB.
Ouais.
C'était contre Watanabe et Higashino, justement. Et contre qui, surtout, ils avaient perdu leurs 3 derniers matchs. Et là, la dynamique s'est totalement inversée. On ne voyait pas ce qui pouvait arriver aux Japonais sur cette demi.
Non, clairement. En fait, les deux matchs avec la finale se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire que Watanabe et Higashino, c'était un mur en défense. Enfin, voilà, c'était impressionnant. Après, c'est vrai qu'il y a eu forcément, on peut le dire, mais il y a un peu de réussite, évidemment. Mais ouais, ils étaient... En fait, ouais, ils étaient imprenables en défense. Ils arrivaient à inverser tous les échanges et ouais, c'était incroyable. Ils ont joué un bat de folie toute la semaine. Et moi, je voudrais juste aussi signaler qu'en quart de finale, ils ont quand même mis 12-7 à Kaneko Matsutomo. On n'a pas oublié que la semaine dernière, au premier tour, c'est la paire qui les bat. je pense qu'ils ont remis les pendules à l'heure.
Je suis bien d'accord avec toi. On parle de l'autre demi avant de, ouais, de parler notamment de J.K.L. Delru. Wang Huang qui sont passés face à Zheng Wang, donc les remakes de la finale des JO. Un match décousu que finalement les champions olympiques ont gagné 21-7, 13-21, 21-13, où on a vu un peu de tout, beaucoup de vitesse, pas toujours des bons choix, j'ai envie de dire, de chaque côté, mais ouais, on s'est quand même assez régalé sur cette demi-finale, pardon.
Oui, on en a moins parlé parce qu'on s'est tellement régalé sur l'autre, mais effectivement, s'il y a des matchs à regarder, je pense que vous pouvez aller regarder les deux demi-finales du mixte et la finale. Vous allez prendre du plaisir, il n'y a aucun problème. Zheng Wang, je pense aussi, il y a le fait qu'ils ne jouent plus ensemble. Ça a probablement joué un peu sur le résultat final, mais on a bien compris quand même que Zheng Ziwei et Wang Yakyong, c'était toujours des joueurs de bad. On s'était dit, ils ne sont pas à leur top niveau et tout, mais franchement, quand tu vois ça, tu te dis que la Chine ne peut pas se passer d'eux. Pas forcément en tant que pair, mais en tant que joueur, enfin, qu'individualité, la Chine, ils sont obligés de compter sur ces deux joueurs-là, je pense.
Voilà, puisqu'ils étaient séparés, un peu sur des paires de double hommes. Là, ils ont joué ensemble juste parce qu'ils avaient des points. Wang Yakyong a dit en interview d'après-match de leur défaite que c'était pas forcément la dernière fois qu'ils jouaient ensemble. Ouais. Donc, le plan est pas très clair, mais j'ai l'impression que du côté de la Chine, on insiste pour dire que c'est pas définitif. Donc, ça, pour le coup, on verra. Mais voilà, pour l'instant, ça fait demi-finale. Bah tiens, au premier tour, ils avaient battu William Villéger et Han Tran, qui ont quand même gagné un set. 21-15, 18-21, 21-12, la victoire des Chinois. Je suis pas sûr que le set gagné ait beaucoup de veulent dire vraiment quelque chose, beaucoup de sens. Mais ils ont eu le mérite d'opposer au moins une vraie résistance aux têtes de série 2.
Voilà, c'est ça que j'ai envie de retenir. Et alors, que ça ait du sens ou pas, la vérité, c'est qu'ils ont pris un set. Alors, je partageais, mais c'est vrai qu'on a quand même eu des messages récemment, on peut le dire, nous disant que William Villéger, c'est vrai que parfois, mentalement ou même comportementalement, c'était pas l'idéal pour son partenaire. Ben, moi, je trouve justement que perdre le premier set contre Zheng Wang au premier tour de All England, tu peux te dire, ouais, ok, allez, c'est bon, on arrête de jouer et tu prends 5 derrière. Ben, moi, je trouve justement que là, je dirais pas que ça fait un peu taire tout le monde parce que c'est pas la question, mais ça montre quand même que mentalement, c'est pas fragile.
Alors, les autres Français, Tom J.K.L. et Delphine Delru, eux ont passé deux tours et ils ont perdu en quart comme la semaine dernière en Allemagne. Ils ont battu les Japonais Yamashita Shinoya 21-16, 14-21, 21-15 et ensuite les Allemands Janssen Effler 21-11, 20-22, 21-15 avant de perdre face au numéro 1 mondiaux 21-18, 21-11. Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi de J.K.L. Delru que moi je trouve, comme la semaine dernière, malgré l'élimination en quart, à chaque fois ils prennent une grosse paire logiquement en quart, je trouve que c'est encore très positif. Il lâche des sets contre des paires où ils doivent gagner, mais tu les sens jamais en danger de perdre le match, et même le match qu'ils perdent, je les trouve pas mal, surtout dans le premier.
Non, je partage totalement ton analyse. Quart de finale, en théorie, c'est quoi? C'est le top 8 mondial, ils sont tête de série 8 sur ce tournoi-là, en vrai, ils sont là où on les attend. Voilà, J.K.L. Delru, il faut leur donner du temps aussi, ils vont pas aller gagner tous les Super 1000 cette saison, voilà, c'est pas ça qu'on leur demande. Ils sont en quart de finale en Allemagne, ils sont en quart de finale en England, on attendra la même chose en Suisse, et voilà, moi j'attends après un peu plus sur les gros matchs, mais maintenant, ils font le job, j'ai envie de dire, et ils sont pas si loin que ça malgré le score 18-11 contre Poivar Anukro Taira Tanacha. Ils font un bon premier set, tu l'as dit, après ça lâche un peu le plan de jeu, mais beaucoup de choses intéressantes, et moi je trouve que ce début de saison il est très prometteur.
Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi, ça fait plaisir de les revoir à ce niveau, et ouais, c'est sûr que quand ils battront des paires comme ça, ce qui leur est déjà arrivé, hein, quand ils avaient eu une période assez folle, c'était en Thaïlande début 2021, oui. Bah c'était bonus quoi, donc on verra ce que ça va donner maintenant. Benoît, le mixte, oui, on n'a même pas parlé de la meilleure paire de la planète, Jordan Octavionti. Ah. On n'en a même pas parlé dans le podcast, je crois, le fait qu'ils se soient fait virer du centre d'entraînement de leur fédération puisqu'ils n'avaient plus de résultats. Donc là, maintenant, ils sont indépendants, mais ils jouent toujours ensemble. Ils passent deux tours avant de perdre face à Wang Huang 25-23, 21-19. Pour le coup, bah, ils font vraiment un bon tournoi. Moi, j'aurais aimé qu'ils gagnent parce que ça aurait été vraiment la victoire ultime pour répondre à leur fédération, mais ils sont revenus à un niveau correct, quoi.
Ouais, plus que correct, et je vais même me mouiller, je vais te dire que la réponse à leur fédé, ils vont la leur donner, parce que franchement, ce match, pour moi, c'était 50-50, et ça aurait pu totalement tourner dans leur sens, et je pense que la réponse à leur fédé, ils vont la donner très très prochainement, et... Alors, ça empêchera jamais ce qu'on reproche à Jordan Octavianti, mais quand même, ça donnera des regrets probablement à leur fédé. Et par meilleur père, moi, je pensais que tu parlais de Christiansen Boyeux, qui, encore une fois, ne passe pas un tour face à une paire toute récente. Voilà, juste pour dire que c'est quand même pas ouf pour le ranking de Christiansen Boyeux, ce qui est en train de se passer sur les deux derniers tournois.
Eux, ils ont fait une grosse tournée européenne, ouais, où ils font finale aux IFB. Mais c'est vrai que là, ça semble être retourné un peu. Et dernier, en parlant de paire européenne, Julie McPherson, qui avait connu une semaine de dingue la semaine dernière en Allemagne, qui là gagne un match avec Adam Hall contre Hu Zhang, les Chinois. 23-21 au premier tour, c'était un sacré match et ça a beaucoup fait vibrer la salle. Hein.
Ouais, bah, c'était la meilleure chose, je pense, pour lancer le premier jour de match.
C'est vrai que c'était assez fou. On va tout de suite passer au simple homme. Oh my god, it's... Alors, dernier tableau. Alors, pour le coup, je trouve qu'en simple homme, on retrouve encore ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout le monde peut battre tout le monde. Sauf que tout le monde peut battre tout le monde, mais c'est surtout personne peut battre Axel Sen quasiment, puisque c'est lui qui a battu Lakshyasen en finale 21-10-21-15. Je dis quasiment, puisqu'il a perdu contre ce même Lakshyasen la semaine dernière, dans un match où il semblait avoir les clés pour le gagner, il s'est effondré de manière assez incompréhensible. Cette fois, on a vu un peu le genre de match qu'on attendait peut-être la semaine dernière, et même si Lakshyasen semblait un peu emprunté physiquement sur cette finale, il n'y a pas eu photo, quoi. Personne ne pouvait arrêter Axel Sen cette semaine, puisqu'il n'a pas perdu un set et pas pris beaucoup de points.
Ouais, je te rejoins totalement. C'est que on le disait la semaine dernière, Lakshyasen, en fait, il a réussi à battre Axel Sen en étant à 120%, en ayant de la réussite, en défense notamment, en faisant le match parfait. Mais ce match-là, tu le gagnes, allez, 2 fois sur 10, peut-être 3 fois sur 10 au grand maximum. Et ce qui s'est passé là, c'est un peu le même match, mais c'est ce qui aurait finalement pu ou dû se passer, j'en sais rien, la semaine dernière. C'est que même Lakshyasen, en vrai... Oui, il le bat la semaine dernière, mais t'as l'impression quand même que Axel Sen est beaucoup plus fort que Lakshyasen, que les autres, certes, mais voilà, qu'il est beaucoup plus fort et y a pas grand chose à faire en fait. Et même si Lakshyasen mérite sa place en finale, on en reparlera, c'est Axel Sen et les autres pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'on attend beaucoup plus de certains joueurs, mais là, à l'heure actuelle, ouais, c'est Axel Sen, c'est le seul qui règne en maître sur son tableau.
Ouais, parce que même les deux tours d'avant, hein, il bat Shu Qianshen en demi et Ginting en quart à qui il met 4 et 9, c'est dingue quand même, ça perd. Enfin, il paraît vraiment intouchable.
Ginting qui est pas mauvais, hein. Son match est pas catastrophique, donc c'est waouh.
D'ailleurs, ouais, pour revenir sur ce « tout le monde peut battre tout le monde », je faisais référence aussi au match de Ginting d'avant, où il joue Kidambi. Donc tu te dis Ginting qui est pas du tout en forme contre Kidambi qui revient très bien, ça devait être vite réglé. Et l'Indonésien qui perd le premier 21-9, donc je me dis, bah oui, c'est plus ou moins ce que j'avais vu venir. Et finalement, il gagne 18-19, il aurait eu le mérite de s'accrocher, de livrer une grosse perf, ouais, même si derrière, il a rien pu faire contre Axel Sen.
Ouais, c'est ça. C'est que voilà, ça résume bien ce que tu disais.
Benoît. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce tableau. On va parler d'abord des Français et après on reviendra sur tout le reste, comme ça on les oubliera pas, nos trois Français qui étaient dans ce tableau. Là encore, pas de victoire malheureusement. Thomas Junior Popov qui perd contre Darren Liu, je pense que c'est la plus frustrante des trois. On va commencer par celle-ci. Il perd 21-15, 21-19. Darren Liu, c'est un bon joueur, mais maintenant il est assez vieux et surtout plus sur le devant de la scène. Et c'est surtout ce deuxième set où Thomas Junior Popov mène 11-6 à la pause. Ensuite, il mène 16-10 avant de s'éteindre pendant quasiment 10 points. C'est, ouais, le scénario est compliqué, quoi.
Ouais, compliqué, c'est ce qu'on n'a pas envie de voir. Alors, je parlais du côté psychologique compliqué avec Foss actuellement. C'est quand même dommageable qu'il passe pas un tour. Je pense que ça aurait été compliqué contre Shu Qianshen, c'est pas la question, mais... Voilà, en fait, avec son statut maintenant de top 35 mondial, voire top 30, Thomas Junior Popov, on l'attend de gagner ce genre de match, c'est vrai.
Ouais, au All England, il faut pas. C'est le genre d'occasion qu'il faut pas laisser passer. J'ai vu qu'en conférence de presse, il a dit je menais et je pense que Darren Yu a allumé un cierge puisqu'il s'est mis à enchaîner les coups filés monstrueux. Mais bon, malgré ça, je pense qu'il y avait la place pour prendre un set, voire beaucoup plus. Bresse Verdez, lui, il a pris un set, et pas n'importe qui en plus à Jonathan Christie, mais il a perdu 21-17 au troisième. Donc score final 21-9, 16-21, 21-17. J'ai envie de dire du Bresse Verdez dans le texte, un joueur intelligent. Il a dit en conférence de presse qu'il avait changé sa stratégie dans le deuxième, et même s'il est un peu court au troisième, j'ai envie de dire, c'est toujours lui, quoi. On l'a déjà dit, hein. Il a 35 ans, je crois. Il a forcément plus les jambes. Et en plus, contre Christie, c'est compliqué. Mais dans ce match, il nous a encore montré pourquoi, c'était lui, même s'il le perd, hein, mais le meilleur joueur de simple homme qu'on ait jamais eu, je pense.
Ouais, il nous a, je pense que t'as tout dit, mais c'est vrai qu'il nous a aussi montré pourquoi il était finalement pas à la retraite, alors qu'il l'a plus ou moins sous-entendu depuis des mois. Là, il montre, il passe pas un tour, mais il montre qu'il est très loin d'être ridicule. Et même si c'est toujours compliqué de gagner des matchs, en vrai, il a sa place dans un tableau de All England encore à 35 ans, ouais.
Et Thomas Ruxell qui affronte un joueur dont on ne parle plus trop alors qu'il est tête de série, oui. C'est Enge Kalong. Il perd le premier 21-11 et le deuxième 21-19. Il aura peut-être un peu de regret de ne pas avoir pu faire mieux dans le deuxième parce qu'en plus il menait à un moment, mais finalement l'écart de niveau il s'est senti. Hein. Et c'est un peu dommage de voir qu'il perd ce match alors quand tu vois derrière que Enge Kalong se fait sèchement sortir, mais ouais. C'est la réalité du moment. Quoi.
Oui, voilà pourquoi on ne parle plus de Enge Kalong hein, aussi, c'est parce que compliqué d'enchaîner les matchs, mais le début de saison est très très compliqué pour Thomas Ruxell, ça c'est sûr, et on l'a encore vu cette semaine.
Beaucoup de choses à dire alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Benoît, tu veux commencer par quoi? Est-ce que tu veux commencer par, je sais pas, Shutien Shen? On a parlé un peu de Christie, on n'a pas parlé de Viti Tsarn. Il y a du Anton Sen, du Loki New, du Lizidia, Momota. Dis-moi par quoi tu veux commencer.
Ouais, c'est compliqué. Je vais dire un tout petit mot sur Momota, ça va aller très vite. Déjà, il a battu sa bête noire Eo Kwang Yi avant de perdre contre Lizidia. On a bien compris que Momota n'était pas encore de retour et qu'il faudra patienter.
Ouais, même si ce match était assez dingue hein, contre Lizidia. Ouais. Un match où il prend le deuxième, mais il n'existe pas sur le premier et un peu plus sur le troisième, mais toujours pas ouf.
Ouais.
Momota qui prend un truc du genre 7-0 au début du match, il y avait une ambiance un peu bizarre. Allez, on va faire la transition vers Lizidia. Qu'est-ce que tu as pensé de son match face à Lakshya Sen où il perd 19 au troisième dans la demi? Un match très intéressant quand même. Hein.
Alors très intéressant, maintenant Lizidia, t'amuses pas à me refaire ça hein, parce que largement devant dans le troisième, c'est mentalement il a pas le droit de perdre ce match là. Voilà.
Ouais, clairement, Lakshya Sen a eu le mérite de s'accrocher,
ouais,
et je pense que c'est la dépense d'énergie qu'il a dû faire qui lui a peut-être coûté sa finale en partie, mais ouais, c'est vrai que Lizidia, je ne le voyais pas perdre ce match-là. Le champion du monde, Loki New, qui a perdu dès le premier tour face à un joueur qu'il avait battu au championnat du monde en plus, Anders Anton Sen, 21-13 au troisième. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match où j'ai trouvé que... on en parlait d'ailleurs quand on l'a vu.
Ouais.
Loki New qui prend le deuxième, mais globalement, on avait beaucoup de mal à voir comment il pouvait prendre le match tant Anton Sen paraissait être au-dessus.
Non, non, totalement ça. Grosse domination d'Anton Sen sur ce match malgré la perte d'un set. Loki New pas encore au top. Le titre mondial difficile à digérer peut-être. Mais bon, après, c'est vrai qu'aussi, t'es champion du monde, mais tu prends quand même la tête de série 3 dès le premier tour, c'est quand même pas un cadeau non plus.
Ouais, et pourtant, Anton Sen, que je voyais bien en forme, a été muselé par Lakshya Sen au tour d'après, où il gagne en 2-7 l'Indien. Assez surprenant quand même, Lakshya Sen qui m'a fait forte impression sur ce match, sans être très malin dans les choix, mais il a fait la différence.
Ouais, c'est un peu tout ce qu'on dit à l'image de ce que tu disais de ce tableau, hein, c'est que tout le monde peut battre tout le monde, sauf Axel Sen certes, mais voilà, tout le monde peut battre tout le monde et la vérité du jour n'est pas forcément la vérité du lendemain.
Oh, c'est très bien dit, et ça s'applique particulièrement au joueur dont je voulais parler maintenant,
ouais.
Viti Tsarn, qui a été très bon en Allemagne, puisqu'il gagne le tournoi, là il passe un tour, et derrière il a fait beaucoup de fautes contre Christie, hein. C'est 21-16, 21-19, assez décevant. Moi je parlais d'un manque d'endurance, enfin en tout cas un manque de physique après une semaine chargée en Allemagne, mais toi ouais, j'ai l'impression que tu avais été un peu déçu de la performance du Thaïlandais.
Oui, alors tout est forcément un peu lié, mais tellement de fautes que tu peux même face à un Christie qui est pas forcément incroyable, d'ailleurs là il a joué un bon match il faut le dire, parce que c'est ce qui est pas le cas de son tour suivant, mais contre Viti Tsarn il joue pas trop mal, Et en plus de ça, tu peux pas te permettre de jouer un match en faisant autant de fautes à ce niveau-là. C'est juste pas possible. Alors tout est peut-être lié, mais ouais, Vitit Sarn, c'est dommage parce que je pense quand même que ben, finalement, il avait au moins un tableau pour aller en demi avec un Christy Paouf, un Shu Tianchen qui revenait lui aussi. Et je pense que Vitit Sarn, il a grillé une bonne carte d'aller en demi du All England.
Ouais, c'est vrai. Après, je pense que là où certains en ont gardé sous le pied en Allemagne, lui s'est donné à 200% et bon, au final, ça fait un titre pour lui. Donc, je pense que même s'il aura le temps d'en gagner d'autres des All England.
Oui.
Est-ce que tu veux dire un mot de Shu Tianchen, tiens, qui a, comme beaucoup, subi la loi d'Axelsen en demi, mais qui fait un tournoi très correct hein, pour un retour. Il bat Christy, Darren New et Roustavito.
Ouais, tournoi très correct de reprise. Maintenant, difficile de tirer des conclusions parce qu'il joue quand même. Voilà, c'est. À part Axelsen, il joue des joueurs forts. Je parle de Christy notamment, mais fort en termes de classement, mais pas vraiment fort en termes de forme. Donc, difficile de juger. Il n'est pas ridicule contre Axelsen, mais c'est pareil. Je demande quand même à voir, notamment en Suisse.
Mais voilà, un mot sur le simple homme. Moi, je trouve que entre les Lizidia, les Lakshiasen, les Momota, les Lokinyu, Antonsen, c'est que des joueurs qui peuvent être incroyablement forts, mais qui pour l'instant manquent de continuité. C'est peut-être un peu sévère pour Momota, mais finalement, quand on regarde ces derniers tournois, c'est un peu ça. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est pour ça que même si Axelsen domine, je trouve que ça reste en ce moment un des tableaux les plus intéressants parce que chaque match est indécis, quoi. Et à chaque fois, je me dis. Shu Tianchen, il aurait. Ouais, là, il fait demi, mais ça aurait pu être, je sais pas, Vitit Sarn, voire un Christy qui revient bien, tu vois. Donc, ce tableau, je trouve assez passionnant et. Bon, il m'intéressait déjà, mais je trouve qu'au lieu de savoir qu'on va avoir Axelsen et Momota en finale cette saison, ça va être particulièrement de regarder même les premiers tours, en fait.
En tout cas, pour l'instant, c'est vrai, parce qu'on a aussi des joueurs comme Lakshiasen ou Lokinyu, tu vois, qui sont champions du monde, vice-champions du monde, et non tête de série, donc. Un tournoi sur deux, t'es quasi sûr qu'ils prennent une tête de série. Et du coup, c'est vrai que dès les premiers tours, on a des super matchs. Et ouais, t'as raison de le dire. C'est vrai que ce tableau, on a beaucoup, tout le top 20 mondial quasi se tient ou est capable de se tenir sur un match. Donc ça donne lieu à de super tableaux. Ouais.
Voilà, c'est tout pour ce All England, Benoît. Le mot de la fin, on s'est quand même bien régalé. On n'en a pas encore parlé, mais je trouve que l'ambiance de ce tournoi, il y a toujours un truc particulier. Enfin, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance, même quand il y avait pas de joueurs anglais ou pas forcément de joueurs européens. Je trouve que ouais, c'était un, comme souvent à Birmingham, un très beau tournoi.
Totalement raison de le rappeler, parce qu'on a peut-être oublié ce que ça faisait d'avoir des spectateurs en tribune, mais. Mais c'est quand même un kiff, vraiment je vous conseille d'aller voir la finale du double mixte, notamment parce qu'on a bien compris que le public avait choisi le côté des Japonais, mais tout simplement parce que ça nous rappelle à quel point c'est quand même autre chose quand les tribunes sont pleines.
Clairement, et pour le coup Watanabe, quel que soit son ou sa partenaire, c'est clairement en train de devenir le chouchou, ouais. Le chouchou local. Lui, je pense que quoi qu'il fasse maintenant, il aura le public avec lui quand il jouera au All England, et on peut comprendre pourquoi. Merci Benoît d'avoir participé à cet épisode.
Merci à toi Ewan, et merci à vous pour votre écoute.
Et là, je peux vous dire que notre calendrier va être chargé, puisque vous vous demandez peut-être avec l'écoute de cet épisode pourquoi on ne parlait pas du top 12 qui a aussi eu lieu ce week-end. Mais parce que tout simplement, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais le top 12 sera bien au rendez-vous sur 21 Shuttle, puisque la première poule, arrivera le 23 mars, donc c'est-à-dire mercredi, donc deux jours après la sortie de cet épisode. Et encore deux jours après, ce sera la poule 2 le vendredi 25. Soyez au rendez-vous surtout pour la poule 1, puisqu'on parlera, Benoît l'a mentionné, mais de la sanction imposée à Fos-sur-Mer qui est passée de potentiellement jouer le titre, en tout cas les playoffs, à se retrouver en N1 l'année prochaine. C'est ce qui est pour l'instant le cas. Et lundi prochain, le 28, ce sera le débrief du Super 300 en Suisse qui arrive qui va se jouer cette semaine, où on retrouvera pas mal de joueurs qui étaient présents cette semaine, dont les Axelsen et compagnie. Donc restez bien au rendez-vous sur 21 Shuttle, et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis sur nos épisodes ou sur les tournois. Prenez soin de vous, à la prochaine.
绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。
情。